Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
30 ans de débat avec un hors-série du Monde et de France Culture, lequel est dans les kiosques, vous pouvez le trouver. Et pour parler de ces 30 années de débat, pour parler de ces rencontres de Pétrarque, nous sommes en compagnie de notre camarade du Monde, Jean Birnbaum. Bonjour Jean.
Bonjour Guillaume,
vous êtes
bonjour
rédacteur en chef du Monde des Livres. Nous sommes également en compagnie de Jean-Marie Borzex, qui a été directeur de France Culture de 1984 à 1997, de Michel Rio Sarcey, professeur émérite d'histoire contemporaine, laquelle sera invitée à prononcer la leçon inaugurale des rencontres de Pétrarque le lundi 11 juillet à Montpellier, de Philippe Reynaud, philosophe, professeur de sciences politiques à l'université de Paris 2. Alors Philippe Reynaud, dans ce hors-série du Monde, on trouve notamment quelque chose qui est extrêmement édifiant, les livres qui ont marqué l'époque, et alors on retrouve donc sur ces 30 années, à la fois la défaite de la pensée, ça c'était en 1987 d'Alain Finkielkraut, l'un et l'autre d'Elisabeth Badinter, ça c'était en 1986, la force du préjugé de Pierre-André Taguieff en 1988. Vous aimez les années 80, vous ?
Oui, moi j'aime les années 80 parce que c'est une période dans la, ça a été une période de recomposition. Dans laquelle les courants des années 70, tout ce qu'on appelait de manière un peu sommaire le structuralisme, sont entrés en crise, sans pour autant qu'on puisse dire que leur apport était absolument dénié ou renié. C'est une période dans laquelle on voit apparaître des courants nouveaux dans la philosophie politique où on s'ouvre d'abord à la philosophie politique comme telle, où on découvre les grandes problématiques étrangères. Rawls s'est traduit en 1987, par exemple.
Rawls, donc, qui va introduire les notions donc de justice sociale et une manière d'appréhender la question des inégalités d'une autre manière pour le monde anglo-saxon, mais aussi dans l'ensemble, et évidemment des universités mondiales.
Oui, on a parlé des discussions sur la Révolution française dans laquelle je ne cache pas mon appartenance plutôt au camp Furé qu'au camp d'en face, il faut raisonner de cette manière-là. C'est l'époque où naît la revue Le Débat, qui est une revue très, très importante et très nouvelle, où des revues comme Esprit et Commentaire sont extrêmement vivantes. Enfin, je trouve que ça a été une grande époque, assez créatrice, assez ouverte, et dans laquelle on n'avait pas encore de recomposition de camps, et dans laquelle, je dirais, on avait une sorte de libéralisme politique qui était généralisé sans être dogmatique, et c'est une époque dont j'ai, pourquoi pas, une certaine nostalgie. Oui.
Les années 90 débutent avec un livre important, celui de Judith Butler, « Troubles dans le genre », Michel Rio Sarcey, et se poursuivent avec le livre de Georges Duby et de Michel Perrault, « Histoire des femmes en Occident ». Est-ce l'introduction donc de nouvelles thèses, de nouvelles approches, notamment des questions de genre dans les sciences humaines ?
Oui, ça a été le livre de Judith Butler a été un très très grand livre dans la mesure où il a fait référence à de nombreuses chercheuses sur la question du genre. Mais il faut jamais oublier qu'en France, le genre a eu quelques difficultés à entrer dans la réflexion critique puisque les chercheuses étaient particulièrement attachées, en particulier les historiennes, à l'histoire des femmes. Donc il y a eu quelques difficultés à faire entrer ce concept dans la mesure où c'était quelque chose qui renouvelait et qui pouvait renouveler la réflexion critique et surtout la recherche historique. Et l'histoire des femmes, c'était plus simple parce que l'on pouvait plus facilement retrouver les traces des travaux de femmes, des comportements de femmes. Seulement, le genre introduisait une réflexion autour de qu'est-ce que le genre et pouvait renouveler les disciplines puisque le genre permettait de poser des questions impertinentes au savoir établi.
Jean Birnbaum, quel souvenir conservez-vous des années 90?
Écoutez, un souvenir très vif, parce que...
Parce que vous aviez
6 ans parce que je regardais Goldorak. Non, mais non, c'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, c'est vrai que dans ce hors-série, on a essayé de le faire à peu près fidèle à l'esprit des rencontres de Pétrarque. Parce que, par exemple, cette sélection de livres, c'est pas forcément les livres qui ont marqué intellectuellement ou qui ont apporté des ruptures épistémologiques ou des ruptures scientifiques. On les a pris, ces livres, surtout en fonction de l'écho et l'effet de cisaille qu'ils ont pu avoir dans le milieu intellectuel, sur la scène intellectuelle. On a mis par exemple le livre de Daniel Lindenberg, hein, Le rappel à l'ordre, Enquête sur les nouveaux réactionnaires, qui était paru il y a quelques années, donc en 2002. On avait fait la manchette du Monde à l'époque, ça avait provoqué toute une polémique. Pourquoi faire la manchette sur ce livre? Beaucoup de gens disaient que sur le fond, il n'était pas très costaud, pas très fort, etc. Mais il avait quand même marqué l'explosion d'une galaxie antitotalitaire. Philippe Reynaud parlait du débat, de la revue Le Débat. La revue Le Débat était un moment aussi, un élément important de cette galaxie dite antitotalitaire. Lindenberg, son livre avait marqué l'explosion de tout ça. Et je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps, pour enchaîner sur ce que vous disiez, Philippe Reynaud, il y avait eu les 30 ans de la revue Le Débat, et dans le recueil qui marquait cet anniversaire, Marcel Gauchet justement essayait de faire une espèce de petite histoire comme ça du milieu et de la vie intellectuelle depuis 30 ans. En montrant comment c'était beaucoup plus compliqué aujourd'hui de marquer des repères, des lignes de front. Et c'est ça qu'on a essayé de faire dans ce hors-série, de retrouver quelques repères et quelques lignes de front, notamment dans un dialogue entre Michel Rieu-Sarcey et Marcel Gauchet, parce que Marcel Gauchet, à l'époque, pouvait dire, voilà, dans les années 80, il y avait le moment sartrien, le monde des sciences humaines, et aujourd'hui, dit Marcel Gauchet, les choses sont beaucoup plus floues, beaucoup plus difficiles à repérer. Donc, c'est pas seulement les livres qui ont compté, c'est les livres qui font cisaille, qui mettent un peu le désordre, voilà, qui sèment un peu la zizanie.
Jean-Marie Vorzek, vous étiez directeur de France Culture et puis vous avez lancé ces rencontres de Pétrarque ou différents paradigmes.
Philippe Reynaud était l'un des premiers acteurs avec Alain Finkielkraut, Alain Gérard Slama, Pierre Nora, etc. Il y a eu dans ces rencontres toujours un petit noyau. Alors, je reviens sur ce sujet du débat. Les débats n'ont pas cessé d'être... Il y avait un dialogue qui s'instaurait entre les participants de ces débats d'idées, mais il y a eu des débats extrêmement violents. Il y avait une émission à France Culture qui s'appelait « Le panorama » de Jacques Duchâteau et Michel Bidlowski.
Excellente émission.
Oui, mais qui était d'une vigueur tout à fait remarquable, et parfois, il fallait même stopper les ardeurs. Mais ce que je retiens de ces années, c'est un esprit, une sorte d'hubris. C'était un moment de libération.
Oui.
Et je me souviens par exemple, c'est une image anecdotique ça, d'un avion plein d'intellectuels qui s'appelait Air Liberté et qui arrivait à Bucarest le lendemain de la chute de Ceaușescu. Et nous étions accueillis par quelques-uns qui nous avaient déjà précédés. Mais les intellectuels français qui arrivaient à Bucarest dans un avion qui s'appelait Air Liberté, ça avait de la gueule. C'est une image un peu ridicule, mais on était quand même dans ce moment-là.
Les années 90, si on continue à dérouler le fil, Philippe Reynaud, là, il y a des livres qui sont effectivement très hétérogènes. On retrouve François Furet avec Le passé d'une illusion, donc son grand essai sur l'idée communiste. Puis Viviane Forrester, L'horreur économique, ça c'était en 1996. Et Les nouveaux chiens de garde, autrement dit une charge contre les médias. Cette fois-ci de Serge Halimi, autrement dit trois titres très différents, à la fois dans leur approche, mais aussi dans leur perspective idéologique.
Il me semble que ce qu'on voit se dissoudre, c'est la conjonction libérale au sens très large qui dominait dans les années 80, dissolution qui est due d'ailleurs à un certain nombre d'insuffisances des systèmes politiques occidentaux. Vous avez mis dans les années 90 le livre de Fukuyama, qui est un livre beaucoup plus subtil qu'on ne le dit en général.
Il faut peut-être d'ailleurs expliquer pourquoi, parce que c'est rare de pouvoir lui rendre hommage, et peut-être que ce livre vaut mieux que ce que l'on a fait de son titre.
Il vaut beaucoup mieux, parce que Fukuyama est un esprit très original.
Il faut juste rappeler Philippe Reynaud, donc il s'agit de La fin de l'histoire, un livre qui a été caricaturé parce qu'on a dit que ce livre prophétisait le fait qu'il n'y aurait plus d'histoire, et après on sait ce qui s'est produit, mais il y avait aussi d'autres choses dans ce livre.
Disons que l'idée de Fukuyama, c'est que il y a eu au XXe siècle deux alternatives globales, disons, à la modernité politique ou à la modernité libérale, enfin, appelons ça comme vous voudrez, qui étaient le communisme et le fascisme, qui représentaient réellement deux projets de société, deux visions du monde alternatives, et que leur effondrement limite en principe le champ du possible, le champ de ce qui est possible. Il n'a jamais dit qu'il allait plus rien se passer, il n'a jamais dit qu'on allait entrer dans un monde totalement pacifié, il a toujours dit qu'il pouvait y avoir des troubles, des guerres, etc. Alors il reprenait en l'occurrence une problématique qui vient de Hegel, qui avait été développée par Kojève, et j'ajouterais d'ailleurs que je trouve très étonnant que les intellectuels et les philosophes français se soient acharnés sur le livre de Fukuyama, enfin certains en disant que tout ça était très sommaire et très vulgaire, alors que s'il y a quelque chose qui est absolument matriciel dans l'histoire de la philosophie française de l'après-guerre, c'est la réflexion que j'ai vienne sur la fin de l'histoire. Vincent Descombes avait beaucoup
de ça. Il faut juste peut-être rappeler que c'est une réflexion qui provient d'une relecture
d'Hegel. De la phénoménologie de l'esprit, mais l'œuvre de gens comme Foucault, comme Bataille, etc., est absolument incompréhensible si on met de côté cette problématique de la fin de l'histoire. Alors, quand elle revient par l'intermédiaire d'un philosophe américain, elle devient ridicule. C'est très curieux, quand même.
Michel Rio-Sarcey.
Non, je ne pense pas que le livre de Fukuyama a été mal interprété. Il me semble au contraire que sa vision peut être considérée comme une vision qui se réalise à l'heure actuelle, dans la mesure où ces courants dont vous parlez et dont a parlé Fukuyama ont totalement oublié l'existence du principe espérance, l'idée même introduite par la Révolution française qui considérait que tous les individus pouvaient accéder au bonheur commun. Tout ça a été balayé par, d'une part, le totalitarisme et d'autre part le libéralisme, aujourd'hui néolibéralisme, et on croit effectivement que ce libéralisme a triomphé. Or, ce qu'il manque, et ce qui a manqué à cette époque, y compris dans les années 80, c'est que ce principe espérance renaît aujourd'hui. Et je crois que là, nous devons être extrêmement attentifs. Je voulais simplement ajouter avant de partir, la réalité présente...
Parce que vous devez partir.
Oui, la réalité présente...
Je le dis
est telle aujourd'hui, avec à la fois la loi travail, la situation internationale, la situation des réfugiés, la situation internationale et européenne, est telle que les intellectuels dont vous parlez, en général, devraient avoir un tout petit peu plus les pieds sur terre pour comprendre qu'entre réalité politique et réflexion critique, il doit y avoir une relation, une concordance que très souvent les intellectuels auxquels vous faites allusion oublient.
Oui, et quel type d'intellectuel, Michel Rio-Sarcey?
Je crois qu'on a toujours affaire à des intellectuels qui sont en quelque sorte au-dessus des réalités. Et il faut
mais vous pensez à qui?
Si vous voulez, vous avez fait allusion aux différents ouvrages qui ont introduit un conflit avec Halimi sur les nouveaux chiens de garde. Donc, il reprend un titre de Nizan. Cette réflexion critique qu'avait Nizan à cette époque-là, ça avait un sens, si vous voulez. Aujourd'hui, cet affrontement peut-être que certains regrettent ou n'a pas eu lieu. Il n'a pas lieu, en fait, dans les débats en général. On fait comme si on était du même monde, on s'entendait très bien. C'est pas vrai. Il y a une réalité conflictuelle. Je regrette, mais la lutte de classe existe encore. Hein.
Brice Couturier, la lutte des classes.
Ah oui, ça me concerne de très près. Moi, si j'avais fait ce résumé des livres qui comptaient, j'aurais choisi certainement tout autre chose. J'aurais plutôt préféré La France qui tombe de Bavrez plutôt que le livre de Badiou, qui me semble avoir marqué autrement plus, je parle du site Bavrez, que celui de Badiou. Mais pour revenir au débat qui nous occupe, je suis frappé de voir qu'aussitôt, on bifurque sur Fukuyama. En réalité, ce à quoi on assiste, c'est un décentrement de la vie intellectuelle. Autrefois, souvenez-vous des débats entre Sartre et Aron, Sartre et Camus, Merleau-Ponty, ça c'est les années 50. Ensuite, dans les années 60-70, on a le structuralisme, on a des penseurs de l'envergure effectivement de Michel Foucault, de Jacques Derrida. Et puis, aujourd'hui, les grands débats, en réalité, ils ont lieu hors de France. Regardez, les grands débats qui nous ont vraiment excités ces 20 dernières années, c'est effectivement le débat entre Fukuyama et Huntington, entre celui qui dit qu'on va vers la fin de l'histoire et celui qui dit qu'au contraire, on va vers un monde de plus en plus conflictuel autour d'une guerre des civilisations. C'est le débat entre John Rawls et les communautariens qui lui ont répondu, qui pose vraiment le débat intellectuel le plus contemporain. Quant aux réflexions d'aujourd'hui sur l'islamisme, sur l'islam radical, c'est surtout des penseurs anglo-saxons et arabes qui nous éclairent beaucoup plus que des
penseurs.
Je pense par exemple à Bernard Lewis qui avait une grande longueur d'avance. Aujourd'hui, à Kamel Daoud, évidemment, à Boualem Sansal. C'est ces gens-là qui pensent l'islamisme. Enfin, on a aussi des Kepel, notez bien. On a aussi des Rois. C'est pas faux. On a aussi des penseurs de l'islamisme ici en France. Mais enfin, les anglo-saxons et les arabes avaient pris pas mal d'avance sur nous.
Brice Couturier nous dit que c'est mieux ailleurs. Je pense pas que ce soit mieux ailleurs. Et je pense qu'il faut qu'on soit très conscient de l'ailleurs. Mais les rencontres de Pétrarque ont toujours été ouvertes aux intellectuels étrangers. Je tenais beaucoup à cette permanence des autres parmi nous. Et je pense qu'il ne faut pas dire que nous sommes aujourd'hui dans un moment de décliniste. Comme il me semble que c'est un peu trop ce que vous dites.
Votre point de vue, Philippe Reynaud, à ce sujet, puis Jean Bienbon.
Moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait une stérilité des intellectuels français
un retard qu'une stérilité.
Même pas, je n'y crois pas. Je crois plutôt qu'il y a un retard des médias français sur le travail intellectuel qui se fait en France. Un intérêt pour des débats qui sont directement liés à l'actualité politique et qui occupent le devant de la scène, mais je pense qu'on a...
Si vous deviez rétablir des injustices, Philippe Reynaud, puisque vous dites que les médias ne s'intéressent pas suffisamment à certains travaux intellectuels, à qui
Écoutez, moi je pense par exemple que dans le domaine de la qui est le mien de la philosophie du droit de la philosophie politique on a des choses qui sont très intéressantes. On a eu longtemps tous les auteurs du Centre Aron étaient des gens qui faisaient un travail de très bonne qualité.
Bon, ça, on en a parlé en partie, puisque le Centre Aron, c'était notamment des gens comme Furet, c'était des gens comme Rosan Vallon, des gens comme Gauchet. On peut dire qu'aujourd'hui, ils disposent malgré tout...
Ils disposent, si vous voulez, je ne vais pas, si vous voulez, vous faire... une liste des 50 bons livres qui sont parus depuis 10 ans. Je crois que ça n'aurait pas d'intérêt, mais je ne suis pas, si vous voulez, particulièrement impressionné. Je vais peut-être vous surprendre, mon ami Brice Couturier, mais je ne suis pas du tout impressionné par le niveau de la production intellectuelle américaine d'aujourd'hui. Je pense que les auteurs que vous avez cités sont des gens qui sont importants, mais enfin, dont les œuvres ont été élaborées il y a déjà une trentaine d'années. Vous dites que c'est les grands sujets de notre époque, le libéralisme, le communautarisme. Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est les grands sujets d'une vie académique routinisée, qui est organisée autour de débats conventionnels dans lesquels, d'un bout à l'autre de la planète, on se répond, sur des arguments dont c'est des auteurs, je pense, qui ont une grande pertinence dans le monde américain, parce qu'ils partent de leur politique et de leur expérience effective, c'est autant que je respecte tout à fait, dont la pertinence pour comprendre les débats européens me paraît tout à fait incertaine. Donc je crois qu'il faut évidemment éviter le provincialisme français, mais il faut éviter aussi le French bashing, enfin c'est pénible.
Jean Bienbon.
Je crois qu'il y a des problèmes qui se posent, d'ailleurs, qui ont été soulevés en partie par Michel Rieu-Sarcey et tout à l'heure par Jean-Marie Borzec, quand ils disaient, voilà, c'était une petite colonie de vacances, c'était des gens qui arrivaient en liberté, c'est peut-être de trucs assez conflictuels, de rapports. Il y avait effectivement, je pense, à une certaine époque, quand même, un rapport au conflit, à l'argumentation, à l'échange vif d'arguments qui était plus fort. Aujourd'hui, il y a des attaques très violentes, il y a des controverses, des choses très polémiques, etc. Mais souvent, quand on demande aux intellectuels en privé ou pas, est-ce que vous dites les choses, est-ce que vous envoyez des textes, que quand vous recevez le texte d'un ami, oser lui dire ce que vous pensez vraiment de ce texte. Souvent, les gens ont une sorte de fatigue, de lassitude, disent « Non, j'ai pas envie de me fâcher ». Il y a une espèce de réel politique comme ça du champ intellectuel qui fait que beaucoup de choses ne se disent pas. Alors que quand on regarde, puisque c'est les rencontres de Pétrarque dont il s'agit là à l'horizon de ce hors-série, quand on regarde les propos de Pétrarque lui-même, je veux dire qu'il était à la fois une sorte de fondateur de l'humanisme classique, donc de l'échange d'arguments, mais aussi quelqu'un qui n'avait pas la langue dans sa poche et qui pouvait être très offensif. J'ai retrouvé ce passage qui était cité par Étienne Anaïm et Patrick Boucheron, dans un livre sur les violences intellectuelles d'ailleurs, Pétrarque, qui disait « Te craindre, toi, avec ton cerveau engourdi, ta plume émoussée, ta langue qui fait des nœuds hein, », c'était en 1355, eh bien, Pétrarque était quelqu'un qui n'était pas seulement dans l'échange courtois d'arguments, c'était aussi quelqu'un qui considérait le champ des idées comme un champ de bataille. Et ça ne veut pas dire insulter, ça ne veut pas dire être forcément que violent, ça veut dire quand même avoir une sorte de respect de la joute oratoire et de la loyauté à l'égard des textes et des idées. Je crois que c'est ça une des singularités des rencontres de Pétrarque. On a toujours essayé de faire en sorte que les gens puissent se retrouver plusieurs jours d'affilée pour qu'ils aient les moyens, l'espace, la liberté de se dire tout simplement les choses.
Jean-Marie Borges.
Je ne saurais le dire mieux. C'est tout à fait cela ce qu'a apporté Pétrarque. Mais les rencontres de Pétrarque. Mais aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur quelque chose qui a changé, qui est en train de changer le monde, c'est Internet. Et je pense que là, on est un peu en retrait. Et que c'est cette grande question d'un monde nouveau qui est en train de naître à grande vitesse qu'il faut examiner de très près.
Justement, de ce point de vue, Internet, il y a des grandes qualités, parce que les réseaux sociaux ou Facebook, avec tous les biais, les complications, etc., que ça implique quand même, et les failles, les contradictions, quand même, vous avez sur Twitter ou sur Facebook une forme de frontalité qui fait que on se débarrasse parfois de ce qui règne trop souvent dans le monde académique, universitaire ou journalistique, où toute forme de franchise a l'air d'être une violence et une brutalité, et où toute réserve critique un peu appuyée sur un texte, par exemple, apparaît comme une attaque ad hominem ou un règlement de compte.
Brice Couturier.
Alors là encore, je vais reprendre mon ancienne la France provincialisée. Sur Internet, le débat d'idées franco-français, il est très faible et mal organisé. Les institutions qui permettent de s'exprimer sont rares. Moi, ma source d'information principale, ce sont des think tanks, hélas, anglo-saxons. C'est un site comme Project Syndicate, auquel collabore pratiquement
Brice Couturier, il n'aime pas la France.
Non, pratiquement tout ce qui compte d'intellectuels publics à travers le monde, du monde arabe au monde nord-américain, en passant par l'Afrique, s'exprime sur Project Syndicate. Très peu de Français. Dominique Moisy et Michel Rocard, à ma connaissance, sont les deux seuls qui interviennent. Par contre, vous avez Joschka Fischer, vous avez tous les Allemands, tous les Anglais, etc., qui écrivent en anglais, en allemand, en espagnol sur ce site, et ils sont traduits dans le monde entier. Nous n'avons aucun équivalent de Project Syndicate. Nous avons perdu énormément de temps, et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes très faibles sur le débat intellectuel mondial.
Philippe Reynaud. Un mot.
Ça, nous sommes faibles sur le débat intellectuel mondial parce que nous sommes faibles dans le monde d'aujourd'hui, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a personne ne peut prétendre que la langue française, la culture française, etc., peut rivaliser aujourd'hui avec le monde anglo-saxon. J'ajouterais, alors pour aller dans votre sens, que nous n'avons pas l'équivalent de la New York Review of Books, qui est une revue absolument admirable, dont on aimerait avoir
du prospect britannique. Oui, nous n'avons même pas une revue intellectuelle digne de ce nom.
Il y a un biais, excusez-moi, mais il y a un biais épouvantable. C'est que la New York Review of Books est une revue excellente, superbe, que nous bénissons tous, mais qui concerne un milieu très étroit. Il faut voir qu'aujourd'hui, quand un intellectuel français a 7 ou 8 000 ou 10 000 signes dans un journal, quel qu'il soit, Le Figaro, Le Monde ou un autre, il est toujours très très envié et fait beaucoup de jaloux aux États-Unis. Où la production intellectuelle un peu exigeante n'a jamais le début d'un quart de place dans les grands journaux qui touchent le grand public.
Quand même dans le New York Times.
Non, très peu. Vous regardez les pages livres du New York Times. Je me souviens d'une conversation avec Pierre Bourette. Voilà, je vous donne un nom précis, parce qu'on voulait des noms tout à l'heure. Je vous donne un nom. Conversation avec Pierre Bourette. Il avait fait son gros livre en NRFSS chez Eric Vigne, gros livre très savant sur Rosenzweig, etc. Benjamin, le messianisme, etc. Il a vu un grand, grand papier dans un supplément littéraire dont je ne veux pas citer le nom.
Le Monde.
Non. Un parmi d'autres. Et il me disait qu'il revenait des États-Unis et que les gens étaient tout à fait étonnés qu'un livre sur Rosenzweig, très compliqué, très beau, très fort, très intense, ce que vous voulez, mais quand même d'un certain niveau d'exigence, ait eu un grand papier dans la presse, grand public.
Je vous rappelle une chose, cependant, que je tiens à vous rappeler, c'est que France Culture existe en France.
Ça vaut pour France Culture aussi, tout à fait.
Je me souviens, quand je suis rentré dans cette radio, vous en étiez le directeur, monsieur Borzex, et je vous bénis de m'avoir accueilli ici.
Que de bénédiction.
C'est une radio où à 8h43, on peut parler de Franz Rosenzweig, ce qui est une bonne chose. Merci de nous avoir éclairé. Je rappelle ce hors-série du Monde et de France Culture qui est en kiosque. 30 ans de débat avec Régis Debray, Assia Djebar, Alain Finkielkraut, Marcel Gauchet, Stéphane Hessel, Étienne Klein, Daniel Lidenberg, Pierre Nora, Jacques Rancière, Christiane Taubira et beaucoup d'autres. Je rappelle également le livre de Philippe Reynaud. Moi, je vais faire des recommandations pour les vacances, Les dilemmes de la raison moderne. Un livre sur Max Weber, si vous souhaitez mieux comprendre la pensée de Max Weber, vous familiariser avec elle, ou bien même
le livre de
si
place,
vous êtes déjà presse ou presse universitaire de France. Mais évidemment, enfin, Jean.
Mais je le disais, il n'y a sans aucune ironie.
Voilà. Vous pouvez le retrouver, il vient d'être publié en PUF Quadrige aux presses universitaires de France.